Une maladie tue à une vitesse foudroyante. Et ses victimes sont toutes des adolescents et des enfants. Dans la province de l'Alberta, au Canada, des scientifiques devront à tout prix tenter d'identifier la bactérie mortelle pour éviter une épidémie. Plus le nombre de victimes deviendra élevé, et plus il faudra prendre des mesures draconiennes avant qu'il ne soit trop tard. Décembre 1999. La plupart des habitants d'Edmonton, en Alberta, fêtent Noël paisiblement. Mais pour la famille Boulding, les vacances vont se transformer en cauchemar. Le lendemain de Noël, Matthew, 18 ans, se réveille avec de la fièvre et une raideur dans la nuque. Sa mère sait qu'il a travaillé dur tout au long de son premier semestre à l'université. Elle pense qu'il a attrapé la grippe. Puis, elle voit ses bras. Ils sont couverts de grosses taches violacées qui ressemblent à des hématomes. Carol Boulding n'a aucune idée de ce que peuvent être ces taches. Mais elle devine que son fils a quelque chose de grave. Matthew est transporté d'urgence à l'hôpital, tandis que les secouristes essaient de le stabiliser.
J'avais une peur bleue que Matthew meure. C'était absolument terrifiant.
Arrivé à l'hôpital universitaire de l'Alberta, Matthew est immédiatement admis aux urgences. Folle d'inquiétude, sa mère s'adresse à l'infirmière chargée des admissions. Elle sent qu'il n'y a pas de temps à perdre.
Je suis allée vers elle et je lui ai dit: chaque seconde, chaque minute compte. Il faut faire quelque chose.
Le docteur Michael Bullard accourt immédiatement et ausculte Matthew, qui est victime d'étourdissement. Le médecin sait que des douleurs articulaires et une raideur de la nuque peuvent être les symptômes de dizaines de maladies.
En tant que médecin urgentiste, nous sommes formés à envisager les diagnostics les plus graves. Nous nous basons sur les premiers symptômes.
Matthew présente un symptôme encore plus étrange et troublant. Les grosses taches violacées sur ses mains gagnent peu à peu ses jambes et ses pieds. Connu sous le nom de pétéchi, ces taches résultent de la rupture de vaisseaux sanguins sous la peau. Le docteur Bullard n'est sûr de rien, mais il a des soupçons quant à l'origine de cette éruption. L'adolescent a contracté une forme grave de méningite bactérienne.
Les premiers symptômes sont généralement des maux de gorge, de tête, des courbatures, une légère fièvre, parfois un peu de diarrhée. Mais cela peut évoluer à plus ou moins brève échéance vers une forme d'infection beaucoup plus grave.
La méningite est une inflammation de la membrane qui recouvre le cerveau et la moelle épinière. Mais dans sa forme la plus sévère, dite à méningocoque, elle est beaucoup plus virulente. Elle provoque une cascade inflammatoire, c'est-à-dire une réaction incontrôlée du système immunitaire accompagnée d'une atteinte multiviscérale. Non traitée, cette méningite peut tuer en quelques heures.
Quand on voit un sujet présentant une infection grave qu'on suppose d'origine bactérienne, la procédure courante consiste à administrer un traitement antibiotique dès qu'on ne fait les prélèvements sanguins et urinaires nécessaires à des cultures.
Bullard met Matthew sous perfusion d'antibiotiques. Les résultats des analyses ne seront connus que dans 24 heures. Mais si Matthew a vraiment une méningite, dans 24 heures, il sera peut-être trop tard. La méningite peut être très contagieuse. En toussant ou en éternuant, le sujet infecté projette des micro-gouttelettes par le nez et la gorge. En attendant la confirmation du diagnostic, Matthew doit être isolé des autres patients et placé en quarantaine. Même le personnel soignant qui s'occupe de lui doit porter des gants, des masques et des vêtements protecteurs. Après lui avoir fait une prise de sang et une ponction lombaire, l'infirmière envoie les prélèvements au laboratoire de pointe de l'hôpital universitaire de l'Alberta, où le docteur Greg Terrell, microbiologiste, est chargé de les analyser.
Quand une hémoculture arrive au laboratoire, elle doit être placée dans un incubateur pour favoriser le développement des micro-organismes, ce qui peut prendre entre 18 et 20 heures.
Après incubation, les scientifiques examinent les cultures en y recherchant le gaz carbonique émis par les bactéries en croissance. Ils peuvent ainsi conclure à la présence ou à l'absence de micro-organismes.
L'échantillon de sang est mis dans un flacon à hémoculture et placé dans une machine. Les flacons sont munis à leur base de capteurs et en se développant dans ce milieu hautement nutritif, les bactéries libèrent du gaz carbonique.
Dans le cas de Matthew, l'atteinte bactérienne ne fait aucun doute. Les capteurs indiquent une augmentation du gaz carbonique. Le sang du jeune homme recèle effectivement des bactéries. Mais de quel type exactement? Une bactérie est un organisme unicellulaire qui se présente sous plusieurs formes. Les microbiologistes sont capables d'identifier la bactérie même après qu'elle soit morte et qu'elle ait perdu sa charge infectieuse. Après coloration du prélèvement, la forme de la cellule apparaît. C'est en quelque sorte l'empreinte digitale de la bactérie. Le verdict du laboratoire est rapide et sans appel. Matthew souffre d'une forme de méningite bactérienne particulièrement virulente, voire mortelle. Elle provoque une infection qui peut entraîner la formation de caillots de sang dans les bras, les jambes et le cerveau, conduisant le malade au coma et à l'état de choc. Privé de sang, les tissus des bras et des jambes se nécrosent. Les médecins sont parfois contraints d'amputer. Et dans 10 à 15% des cas, l'issue est fatale. Rongés par l'inquiétude, les parents de Matthew ne peuvent qu'attendre et espérer.
Quand son enfant est malade, on n'a pas d'autre choix que de faire face. Mais tant qu'il ne s'en est pas sorti, on ne vit plus.
Les médecins de Matthew contactent le docteur Jerry Priddy du Bureau de la Santé d'Edmonton. La méningite est une maladie infectieuse qui peut se propager très rapidement dans une population et échapper à tout contrôle. Chaque cas est dûment répertorié par les autorités sanitaires. Matthew est le second cas rapporté à Edmonton au mois de décembre.
Deux cas en une semaine, c'était préoccupant, mais ça n'avait rien de vraiment exceptionnel.
Par mesure de précaution, Priddy demande à ses services d'alerter les hôpitaux et cliniques de la région. Les professionnels de la santé doivent être vigilants s'ils rencontrent des cas de méningite. La maladie frappe plus particulièrement en hiver. Par temps froid et sec, la population est plus exposée, surtout les enfants et les adolescents.
Elle se transmet par les micro-gouttelettes projetées par quelqu'un qui tousse ou qui éternue. Ou encore, par la salive si l'on partage par exemple une cigarette ou une boisson avec une personne contaminée.
Les médecins surveillent de près l'évolution de Matthew. Au bout de 2 jours, les antibiotiques font leur effet et le jeune homme commence à se remettre lentement. Les médecins espèrent vivement que ce sera le dernier cas de méningite de la saison. Mais une semaine plus tard, un autre adolescent tombe malade dans une ville voisine. Ryan Zelke, 17 ans, est un élève populaire de sa classe de terminale. À ses moments perdus, il joue de la guitare dans un groupe de musiciens amateurs. Le 7 janvier, Ryan a une sévère crise d'asthme. Il est asthmatique depuis son enfance. Sa mère l'emmène chez le médecin qui diagnostique une grippe. Ses parents se relaient à son chevet. Mais Ryan s'affaiblit. Il éprouve des douleurs de plus en plus intenses. Son père le soutient pour aller aux toilettes. C'est alors que Michel Zelke aperçoit de grosses taches violacées sur le torse de son fils. Elle n'a aucune idée de ce qui a pu les provoquer, mais elle est sûre d'une chose. Son fils a contracté une maladie grave. Il faut le conduire d'urgence à l'hôpital. Les Zelke n'ont pas le temps d'attendre une ambulance. Ils y seront plus vite en auto. En chemin, Ryan se plaint d'une sensation d'oppression à la poitrine. Il a du mal à respirer. En tâtant son pouls, Michel constate que le cœur de son fils s'affaiblit. À l'urgence, les médecins sont alarmés par l'état de Ryan. Les battements de son cœur sont désordonnés. Sa tension artérielle chute brutalement. Le jeune garçon perd connaissance. Très vite, l'électroencéphalogramme affiche un tracé plat. Ryan s'enfonce. Les médecins tentent désespérément de le ranimer. Michel Zelke rejoint son mari hors de la salle. Leur fils est au plus mal et ils sont impuissants. Pendant plus d'une heure, l'équipe médicale fera l'impossible pour ranimer le jeune garçon. En vain. Le 10 janvier, Ryan Zelke meurt à l'âge de 17 ans. Malheureusement, il ne sera pas la dernière victime de la méningite à Edmonton cet hiver-là, car l'épidémie ne fait que commencer. En janvier 2000, un adolescent de 17 ans contracte ce qui ressemble à une grippe. 48 heures plus tard, on constate son décès. Les médecins soupçonnent que sa mort est due à une souche bactérienne virulente. Une autopsie est pratiquée pour rechercher le germe pathogène et confirmer le diagnostic. La charge virale est toujours active dans le sang du jeune homme. C'est pourquoi le personnel médical doit porter des vêtements de protection. Il faut découvrir ce qui est arrivé au jeune homme et pourquoi la maladie l'a foudroyé aussi rapidement. L'infection bactérienne a altéré ses vaisseaux sanguins, provoquant un état de choc et une atteinte multiviscérale. À l'hôpital universitaire d'Alberta, à Edmonton, les biologistes examinent les prélèvements sanguins et tissulaires de Ryan à la recherche d'indices. Un premier test confirme le diagnostic de méningite bactérienne. Les médecins transmettent les résultats des analyses et de l'autopsie aux autorités sanitaires, qui redoutent désormais d'être confrontés à un début d'épidémie. Ryan est le troisième cas en moins d'un mois. Le docteur Jerry Prady, du Bureau de la santé d'Edmonton, craint le pire.
En l'occurrence, même si le nombre de cas était sans commune mesure avec ce qu'on peut considérer comme une situation épidémique, nous sentions instinctivement qu'il se passait quelque chose d'inhabituel.
Après la mort tragique de Ryan, la presse d'Edmonton lance une alerte au public. Celle-ci s'adresse particulièrement aux adolescents, qui constituent le groupe le plus exposé.
Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les adolescents et les jeunes adultes courent plus de risques, et notamment leur comportement.
Plus que toute autre tranche d'âge, les adolescents ont tendance à se regrouper en grand nombre, de jour comme de nuit. En classe ou pendant leurs loisirs, ils vivent en bandes compactes et échangent couramment boissons, cigarettes et baisers. Cette proximité physique favorise la transmission bactérienne d'une personne à l'autre. Comment expliquer alors qu'aucun des malades répertoriés ne fréquente la même école? Les agents du ministère de la Santé sont mystifiés quant à l'origine de la flambée épidémique. Pour essayer d'en savoir un peu plus, ils interrogent les parents de Ryan Zelke. Il existe bien un point commun entre les trois patients. Tous habitent dans la région d'Edmonton. Les enquêteurs se demandent s'ils se connaissent ou s'ils ont pu se rencontrer quelque part, lors d'une réunion sportive ou amicale, par exemple. Mais les parents de Ryan ignorent quels sont ses derniers déplacements. Les enquêteurs questionnent également Matthew Boulding en espérant découvrir un fil conducteur entre les trois cas. Mais la traque se révèle plus compliquée que prévu. Les trois patients ne se sont jamais rencontrés. La piste promet d'être difficile à suivre.
Le problème, quand on veut remonter à la source d'une infection, c'est que la plupart des sujets porteurs de la bactérie n'ont aucun symptôme. La majorité des malades sont donc contaminés par des sujets asymptomatiques.
Dans toute la région d'Edmonton, les services de santé donnent l'alerte. Ils conseillent aux jeunes d'aller consulter immédiatement s'ils présentent des symptômes comme ceux de la grippe, suivis d'une éruption cutanée violacée. Pendant ce temps, la bactérie tueuse poursuit sa course infernale, sans qu'on puisse l'arrêter. L'épidémie connaît une recrudescence et frappe des victimes encore plus jeunes. Plusieurs jours après la mort de Ryan Zelke, une jeune mère inquiète se présente aux urgences de l'hôpital universitaire de l'Alberta. Son fils, le petit Alex Hansen, 4 ans, semble terrassé par une mauvaise grippe.
Mon mari avait eu la grippe la semaine précédente. Alors j'ai pensé que mon fils l'avait attrapé parce qu'il avait les mêmes symptômes. Il ne voulait pas manger, il était fatigué.
Dans la salle d'attente des urgences, le petit Alex perd soudain connaissance dans les bras de sa mère. Les médecins viennent le chercher immédiatement pour le réanimer. Madame Hansen les aide à déshabiller son fils. En ôtant le t-shirt du petit garçon, il remarque de grosses taches violacées sur son torse.
Ils l'ont allongé sur le lit. Moins d'une minute plus tard, ils ont enfilé des masques et des gants et ils m'ont demandé de m'écarter.
Les médecins placent l'enfant sous oxygène et le perfusent pour le stabiliser. Mais sa tension artérielle chute. Une infirmière conduit Cheryl hors de la salle.
L'infirmière m'a dit, « On ne sait pas très bien ce qui se passe, mais laissez-les travailler. Si vous pouvez appeler quelqu'un, faites-le. » Et moi, je me disais, « Mais il n'a que la grippe, qu'est-ce qui vous prend ?» Je ne comprenais pas.
Le petit garçon est dans un état critique. Il est transféré dans l'unité de soins intensifs pédiatriques. Les médecins sont inquiets pour lui.
L'infirmière m'a emmené le voir parce qu'il avait un peu repris connaissance. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Maman, je me sens mieux maintenant ». Je me suis dit « Bon, il devait être déshydraté ou quelque chose comme ça ». Et c'est là que l'infirmière m'a dit « Non, maintenant on doit l'anesthésier, lui poser un cathéter et tout le reste ».
Le pronostic vital est en jeu. Le médecin informe les parents du mieux qu'il peut. Il craint que leur fils n'ait contracté une méningite bactérienne, mais il faut au laboratoire un délai de 24 heures pour confirmer le diagnostic.
Le pédiatre nous a dit qu'Alex n'avait que 50 % de chances de survie à ce stade et que les prochaines 24 heures seraient déterminantes. Et pendant qu'il nous parlait, l'infirmière a couru pour dire que la tension d'Alex chutait à nouveau. Le médecin est alors sorti et nous sommes restés là, mon mari et moi, sans savoir quoi faire. Puis il est revenu en disant « C'est bon, il est de nouveau stable, mais ça va être comme ça pendant 24 heures. » Je ne sais pas comment j'ai pu traverser ça. C'était affreux.
Pour les Hansen, voir leur enfant branché à des tuyaux et des machines est atroce. Le petit garçon reçoit des doses massives d'antibiotiques par voie intraveineuse. Il est placé sous assistance respiratoire.
Il avait des tuyaux et des aiguilles partout, et son corps était couvert de taches violacées. Je n'arrivais pas à croire que tout ça était arrivé aussi vite et qu'il s'était écoulé à peine une heure entre notre arrivée aux urgences et son transfert à l'unité des soins intensifs.
L'infection bactérienne a gagné tout l'appareil circulatoire de l'enfant. Si sa mère ne l'avait pas conduit aux urgences sur le champ, il serait mort. Mais il n'est pas tiré d'affaire pour autant. Les médecins préviennent les Hansen que si leur fils survit, il risque de garder des séquelles neurologiques.
Je me suis effondrée. L'infirmière m'a fait sortir de la pièce et m'a dit « Ne faites pas ça, peut-être qu'il vous entend, vous devez être forte devant lui. » Et pendant les 3 heures qui ont suivi, je ne me souviens ni à qui j'ai parlé, ni ce que j'ai fait, ni rien. J'étais totalement sous le choc.
Le lendemain, au laboratoire de l'hôpital, le docteur Cheryl a la confirmation qu'Alex est bien atteint de méningite bactérienne. C'est le 4e cas avéré en moins d'un mois, ce qui représente l'équivalent d'une année entière en temps normal. La ville d'Edmonton est confrontée à une bactérie mortelle. L'épidémie est sur le point d'éclater. En Alberta, les autorités sanitaires doivent faire face à un début d'épidémie mortelle. Une méningite bactérienne très virulente a déjà tué un adolescent. Et les agents de la santé publique n'ont toujours pas réussi à retrouver l'origine de l'infection.
Lady from the health department.
Une dame du ministère de la Santé m'a dit à quel point c'était contagieux et m'a demandé les noms de tous les enfants qu'Alex avait pu côtoyer la semaine précédente. Je me suis dit, mon Dieu, il a été en contact avec tellement de gens, je ne sais même pas par où commencer.
Des agents de la santé publique se rendent dans toutes les garderies de la région d'Edmonton. Ils alertent le personnel et les parents. Une bactérie mortelle menace gravement la vie des enfants. Deux jours après avoir perdu connaissance dans la salle d'attente des urgences, le petit Alex Hansen est toujours dans un état critique. Sa mère est rongée par l'angoisse. Même si l'enfant survit, les médecins craignent que l'infection bactérienne ne lui ait endommagé le cerveau de façon irréversible. Pour en avoir le cœur net, ils placent des électrodes sur la tête de l'enfant afin d'enregistrer son activité cérébrale. Le cerveau d'Alex n'a pas été endommagé par l'infection. Maintenant, il faut espérer qu'il survivra. Au cours des jours suivants, les services d'urgence des hôpitaux d'Edmonton sont pris d'assaut par des dizaines de patients atteints de symptômes grippaux. Des parents affolés amènent des enfants aux prises avec toutes sortes de maladies.
Beaucoup de patients atteints d'affections des voies respiratoires supérieures craignaient d'avoir contracté l'infection et voulaient qu'on leur confirme que ce n'était pas le cas.
En effet, beaucoup n'ont pas la maladie. Mais les autorités sanitaires enregistrent avec inquiétude une augmentation significative du nombre de cas confirmés.
À la mi-janvier, on a eu 5 cas en moins d'une semaine. Un jeune homme de 20 ans, un petit garçon de 7 ans, deux de 4 ans et un nourrisson.
La bactérie a fait 8 victimes en moins d'un mois. La menace augmente et les enquêteurs n'ont toujours aucune piste leur permettant d'établir un lien entre les malades. Face à cette flambée de méningite mortelle, les autorités sanitaires doivent absolument découvrir comment la bactérie s'est propagée dans la population.
Nous n'avions aucune piste et les cas s'étaient déclarés dans un laps de temps assez court. Cela nous a poussé à croire qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans la propagation de cette bactérie au sein de la population.
À l'hôpital universitaire de l'Alberta, le docteur Greg Terrell essaie de trouver des pistes à partir de la bactérie elle-même. Terrell envisage deux hypothèses. Il peut s'agir d'une nouvelle souche bactérienne encore inconnue à Edmonton ou alors d'une souche existante ayant subi une mutation qui l'a rendue plus virulente. Jusqu'à 5% de la population peut être porteuse de la bactérie communément responsable de la méningite. Mais s'il s'agit d'une souche nouvelle ou mutante, on croit que le nombre élevé de malades est dû au fait que la population n'a pas encore développé de défense immunitaire spécifique. Le docteur Terrell analyse l'ADN de la bactérie. Ses conclusions sont alarmantes. Les 8 patients ont tous été infectés par une souche identique et jusque-là inédite. Terrell soupçonne qu'il s'agit d'une souche mutante, un peu à la manière du virus de la grippe. Maintenant que la bactérie a été identifiée, les autorités sanitaires espèrent pouvoir contenir l'épidémie. Il existe bien un vaccin contre ce type de méningite. Mais pour être efficace, il doit être administré au maximum d'individus avant qu'il ne soit atteint. Le docteur Preddy propose aux autorités sanitaires de l'Alberta la mise en place d'un programme de vaccination massive.
That point is when
C'est alors qu'on a vraiment entamé les discussions avec le ministère de la Santé pour savoir s'il fallait mettre sur pied une campagne de vaccination et à quel moment. On commençait à être vraiment inquiets.
Les programmes de vaccination sont coûteux et difficiles à appliquer. Pour le docteur Karen Grimsrod, agente de santé provinciale adjointe, la décision est difficile à prendre.
À l'époque, les directives canadiennes préconisaient que si l'on avait, dans un laps de temps de 3 mois, 10 cas pour 100 000 habitants dans la même tranche d'âge, en l'occurrence les 15-19 ans, il fallait envisager un programme de vaccination.
La barre des 10 cas n'étant pas tout à fait atteinte, les autorités sanitaires décident d'attendre. Puis survient un cas qui va faire basculer la situation. Le 4 février 2000, Doug McAngus conduit sa fille Dawn, 16 ans, dans une clinique en banlieue d'Edmonton. La veille, la jeune fille a commencé à se sentir mal. Elle a des frissons et de la fièvre. Elle est victime de vomissements.
Je n'avais pas compris ce qui se passait. Je voyais qu'elle était vraiment mal, mais je mettais ça sur le compte d'une intoxication alimentaire. Elle vomissait beaucoup.
Après une auscultation sommaire, le médecin conclut à une banale grippe. Il rassure la famille, c'est l'affaire de 2 ou 3 jours. Mais ces symptômes peuvent facilement induire une erreur de diagnostic. Les McAngus veillent leur fille toute la nuit.
Elle était allongée sur le canapé et on lui passait un linge humide sur le visage.
Vers 4h30 du matin, un bruit sourd réveille en sursaut Doug et sa femme Deirdre. Dawn s'est effondrée en essayant de se rendre à la salle de bain. Dans la lumière diffuse, Deirdre aperçoit soudain, épouvantée, de grosses taches violacées sur la peau de sa fille. En une fraction de seconde, l'histoire de Ryan Zelke, qu'elle a vue à la télévision, lui revient en mémoire.
J'ai remarqué qu'elle avait 5 taches violacées sur le torse. C'est là que j'ai compris que ma fille avait la méningite.
Deirdre sait qu'il n'y a pas une minute à perdre. L'état de Dawn ne cesse de se dégrader. Bientôt, la méningite aura provoqué des dégâts irréversibles. La jeune fille est transportée à l'hôpital où l'on constate la gravité de son état.
J'ai compris que c'était grave parce qu'ils ne m'ont même pas demandé de remplir les papiers avant l'admission. Ils l'ont prise en charge immédiatement.
Le médecin des urgences soupçonne d'emblée une méningite bactérienne et il administre des antibiotiques sur le champ. Le temps est compté. Il faut agir très vite pour juguler l'infection avant qu'il ne soit trop tard. Déjà, la jeune fille est à l'agonie.
Les médecins m'ont dit, Deirdre, votre fille est très malade.
Les médecins décident de transférer Dawn à l'hôpital universitaire de l'Alberta, mieux équipé pour traiter la méningite. Dans l'ambulance, les auxiliaires médicaux la mettent sous oxygène et sédatifs pour soulager ses douleurs. Quand la jeune fille arrive à l'unité de soins intensifs de l'hôpital, ses 2 reins et ses poumons ont cessé de fonctionner sous l'effet de l'infection bactérienne. Elle ne peut plus respirer de façon autonome.
Ils l'ont branchée à une machine pour nettoyer son sang et essayer de la remettre sur pied. Pendant 6 jours, on est passé de l'espoir au désespoir comme sur des montagnes russes.
Pendant près d'une semaine, la famille se relaie 24 heures sur 24 au chevet de Dawn.
On a dû mettre des gants et des masques. Je ne supportais pas de voir ma sœur dans cet état. Elle était branchée à toutes ses machines. Tout son corps était couvert de taches violacées.
La famille apprend avec effroi que plusieurs enfants atteints de méningite mortelle ont été admis récemment dans cet hôpital.
Je n'arrivais pas à y croire. Je ne comprenais pas pourquoi personne ne venait nous expliquer ce qu'était cette méningite et pourquoi c'était une maladie aussi dangereuse.
Près d'une semaine après l'arrivée de Dawn à l'hôpital, les médecins annoncent à sa famille que son état a encore empiré. La jeune fille a fait une hémorragie cérébrale.
Il a dit, il n'y a plus rien à faire. Ses reins ne fonctionnent plus. Son foie s'est arrêté. Elle est en coma dépassé. Elle n'a aucune chance de revenir à la vie.
La famille McAngus doit prendre une décision infiniment douloureuse.
Ils m'ont dit qu'ils allaient débrancher toutes les machines et voir si elles pouvaient fonctionner de façon autonome.
Les parents, au supplice, acceptent que l'on déconnecte l'appareil de respiration artificielle.
J'ai tenu le bras de Dawn. Ils l'ont débranchée et elle est morte.
Dawn s'éteint le 10 février 2000 à 16 heures. L'histoire tragique de Dawn fait la une des journaux dans toute la province d'Alberta. Après ce nouveau cas, les autorités sanitaires décident d'agir sans plus tarder.
Chaque fois qu'il y a un cas de méningite à méningocoque et que l'issue est mortelle, on peut être sûr que cela va susciter l'intérêt des médias et l'inquiétude du public. Donc nous avions le sentiment qu'il fallait agir.
Les autorités sanitaires décident de lancer la campagne de vaccination massive qu'elles avaient envisagée. C'est leur seule chance d'enrayer la flambée épidémique. Lors d'une conférence de presse, les représentants de la santé publique annoncent qu'ils vont faire vacciner les jeunes de 15 à 19 ans, qui constituent la tranche d'âge la plus exposée au fléau. Mais l'inquiétude gagne la population. On se demande s'il n'est pas déjà trop tard. Le fléau continue de se propager. En Alberta, des parents vivent un cauchemar. Une maladie mortelle s'attaque aux enfants. Elle a déjà tué 2 adolescents. Les représentants de la santé publique ont décidé de lancer un programme de vaccination de masse, bien qu'ils ne soient pas complètement sûrs de son efficacité. Le docteur Jerry Prady mobilise toute son équipe pour entreprendre cette tâche titanesque.
Nous n'avions pas beaucoup de temps et il fallait vacciner un grand nombre de gens dans un laps de temps très court. Nous avons donc ouvert plusieurs centres de vaccination dans la région où les gens pouvaient se rendre depuis leur travail ou leur école.
Les premiers à être vaccinés sont les jeunes de 15 à 19 ans, qui sont les plus exposés. Le programme démarre à la mi-février, 6 semaines après le début de l'épidémie. De longues files d'attente d'adolescents s'étirent dans les cliniques. Mais pour immuniser plus de 50 000 jeunes, le Bureau de la Santé doit faire venir de grandes quantités de vaccins, car ses stocks sont insuffisants.
Il n'était pas facile de faire venir en Alberta une telle quantité de doses pour une vaccination de masse. Il y a eu une formidable mobilisation pour envoyer des vaccins par avion depuis l'autre bout de l'Amérique du Nord. Je crois même qu'ils en ont apporté d'Europe pour qu'on en ait suffisamment.
Les autorités sanitaires régionales mettent également en place une ligne téléphonique pour informer les parents inquiets. Car la peur s'est répandue dans la population bien plus vite que la maladie. Les trois premiers jours, le service téléphonique reçoit plus de 15 000 appels. En l'espace d'une semaine, 25 000 jeunes garçons et filles ont été vaccinés. En 8 semaines, ils sont plus de 50 000, soit la quasi-totalité de la population la plus exposée. Désormais, il n'y a plus qu'à attendre et espérer que le vaccin sera efficace. Mais d'autres parents sont inquiets. Leurs enfants, plus jeunes, n'ont pas été vaccinés et restent donc exposés au danger.
Bien qu'à l'origine, la maladie ait frappé essentiellement des adolescents, il existait néanmoins un risque de propagation aux enfants plus jeunes. Nous avons donc rapidement annoncé une campagne de vaccination de la population de moins de 19 ans.
Sous la pression croissante du public, les autorités sanitaires étendent le programme de vaccination aux enfants de 2 à 14 ans, puis aux jeunes adultes de 20 à 24 ans.
Cette année, le taux de prévalence a vraiment chuté. Nous sommes en train d'observer le plein impact du programme d'immunisation, puisque 76% des jeunes entre 2 et 24 ans ont été vaccinés.
Deux mois après le début de l'épidémie, les autorités sanitaires et les habitants d'Edmonton peuvent enfin se sentir soulagés. Aucun nouveau cas n'a été signalé. Le vaccin s'est révélé efficace. Il a permis d'enrayer la flambée épidémique. Les sujets vaccinés seront protégés pendant une durée de 3 à 5 ans. Aujourd'hui, la bactérie mortelle n'a pas disparu. Elle présente toujours une menace pour ceux qui n'ont pas été vaccinés. Mais au moins, les jeunes d'Edmonton sont-ils protégés? Le petit Alex Hansen, l'une des plus jeunes victimes de la terrible méningite, mène une vie tout à fait normale. Il n'a gardé aucune séquelle de la maladie et c'est un petit garçon heureux et en bonne santé.
Il est complètement guéri. Il avait gardé des petites marques sur la cheville et le dos à cause des caillots de sang, mais elles ont fini par disparaître l'année dernière.
Matthew Boulding a aussi totalement recouvré la santé. Il poursuit aujourd'hui des études d'ingénieur à l'université. Avoir frôlé la mort d'aussi près a changé sa vision de la vie ainsi que celle de sa famille.
Je crois qu'on a tous un peu changé. Et Matthew aussi, sans doute. Car quand on a 18 ans, on se sent très fort et capable de faire un tas de choses. On peut sortir toute la nuit, travailler, étudier, on peut tout faire. On se sent invincible. Je crois qu'il a compris que ça n'arrivait pas qu'aux autres. C'est peut-être vrai de nous tous. On a peut-être tous ressenti ça. Et ça nous a fait prendre conscience que la vie ne tient qu'à un fil.
Deirdre et Doug McAngus, les parents de Dawn, ont puisé dans leur malheur la force d'agir. Ils ont créé une fondation pour la méningite. Après avoir perdu leur propre fille, ils consacrent leur vie à aider d'autres parents.
J'ai perdu un enfant. C'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Alors après ça, rien ne peut plus me faire peur. Je peux affronter n'importe quel défi, n'importe quelle épreuve, parce que franchement, je crois que j'ai connu le pire.
En l'an 2000, La méningite a infecté 49 personnes et fait 3 morts à Edmonton. Aujourd'hui encore, cette maladie mortelle n'a pas livré tous ses secrets. Personne n'a réussi à savoir exactement comment est survenue cette méningite, ni comment elle s'est propagée. Mais une chose est sûre. À Edmonton, la campagne de vaccination de masse continue de sauver des vies en tenant cette bactérie mortelle à distance.